Dans nos communautés, une émission de Christiane Hervault sur Radio Alliance Plus.
Bonjour chères auditrices et chers auditeurs de Radio Alliance Plus et bienvenue pour notre émission. Je vous propose aujourd'hui d'écouter un enregistrement que j'ai fait lors de la 5e pastorale nationale des pasteurs à la retraite au Lazaret à 7, les 13 et 16 mai. Le titre était « Dans le chaos du monde, discerner un avenir en commun ». Et je vous propose aujourd'hui d'écouter une conférence qui a été proposée sous le titre « L'espérance en temps de crise », donnée par Céline Romer, maître de conférence à l'Institut protestant de théologie à Montpellier. Elle nous a introduit dans une réflexion par l'intermédiaire des textes de l'apôtre Paul, texte de l'épître aux Romains, texte de l'épître aux Thessaloniciens notamment. Et donc je vous propose d'écouter cette conférence, mais en deux temps, puisque elle était un peu longue, bien sûr. Donc vous pouvez écouter la première partie aujourd'hui, la deuxième partie la semaine prochaine. Et donc nous allons écouter cette conférence. Il y aura un temps musical après cela et nous nous retrouvons juste après, ensemble, pour la fin de cette émission.
Je voulais vous parler d'espérance. J'espère que je ne me trompe pas, je pense que c'est le thème qui nous retient tous. Et pour parler d'espérance, je vais partir en compagnie de Paul. Alors là, comme ça, je n'aurai pas trop de problèmes d'auteur, de personnage, tout ce qu'on a vu tout à l'heure avec mon collègue. Vous savez que dans le texte reconnu le plus ancien du Nouveau Testament, je vais partir sur cette affirmation-là, la première épître aux Thessaloniciens, qui est annoncée de Paul, mais qui en réalité démarre par une salutation de la part de Paul, Sylvain et Timothée. Eh bien, ces trois-là refusent d'abandonner les Thessaloniciens à leur tristesse, et je les cite, « comme les autres, écrivent-ils, hein, comme les autres qui n'ont pas d'espérance. » 1 Thessaloniciens 4, 13. Eh bien, vous voyez que dès les premiers pas de la théologie chrétienne, au commencement même de la compréhension de ce qu'est l'existence chrétienne, de ce que signifie la foi en Jésus-Christ, il y a l'espérance. Nous, écrit le jeune Paul, hein, il est tout jeune quand il écrit ça, nous avons une espérance. Alors il s'inquiète que ses frères et sœurs ne soient pas au courant de ça, ne le sachent pas ou l'ont oublié, et il s'inquiète qu'en temps de crise, ces pauvres Thessaloniciens se perdent dans la désespérance. Dans le Nouveau Testament, la notion d'espérance est une dimension essentielle de la foi. La compréhension qu'a d'elle-même l'existence chrétienne fait de la foi le lien d'appartenance au Dieu qui s'est révélé dans la singularité de la parole faite chair dans la personne historique de Jésus-Christ. Et cette foi-là, comprise encore une fois comme la reconnaissance en soi de cette vérité événementielle de la révélation de Dieu en Jésus-Christ, et bien cette foi-là n'est pas sans amour, et comme elle n'est pas sans amour, elle n'est pas non plus sans espérance. Et je vais citer Luther, ça fait jamais de mal, quoique. En théologie, la foi sans l'espérance n'est rien, car dans le malheur, c'est l'espérance qui supporte et persévère et qui remporte la victoire. Cette fameuse triade qu'on a tous à l'esprit, la foi, l'espérance et l'amour, et au passage dont Paul est certainement l'inventeur, conduit à réfléchir aux trois dimensions centrales de l'existence chrétienne et à ce qui elle-même les suscite et les maintient en vie, hein, les maintient vivantes. Alors à la suite de Paul, en fait, en réalité, depuis Thomas d'Aquin, il y a une longue tradition théologique qui a compris la foi, l'espérance et l'amour comme des vertus théologales. Ça signifie qu'on les comprend comme trois vertus qui sont données à l'être humain par la grâce de Dieu. Elles sont théologales, en ce sens qu'elles viennent de Dieu et qu'elles mènent à Dieu. Alors ça fait toujours chic dans les dîners mondains de parler de vertus théologales, en réalité c'est simplement parler de dons de Dieu et de ce qui mène à Dieu. L'espérance, donc, avec la foi et avec l'amour, l'espérance est donc comprise en théologie chrétienne comme un don de Dieu. Elle prend place en l'être humain pour devenir l'espérance humaine, pour que l'être humain s'approprie cette espérance que Dieu lui donne. Et dès les débuts du christianisme, l'espérance s'avère indispensable à celui ou celle qui cherche à rendre compte de sa foi. On ne peut pas penser la foi, comprise encore une fois comme une attitude existentielle de confiance en Christ, on ne peut pas penser cette foi-là sans penser l'espérance. Une fois qu'on a dit ça, il faut encore comprendre et se mettre d'accord ou pas sur ce que recouvre ce mot « espérance ». De quoi ce mot « espérance » est-il le nom dans les textes bibliques ? Alors, commençons par souligner que le mot « espérance » et sa forme verbale « espérer » n'appartiennent pas à nos auteurs bibliques, mais appartiennent à la tradition chrétienne, ce qui est quand même deux choses différentes. Et d'ailleurs, on est assez content que nos auteurs bibliques aient échappé à la tradition chrétienne. Il est tout de même intéressant de s'arrêter un tout petit peu sur ce verbe de la langue française « espérer », directement issu du latin « sperare », qui signifie, j'ai lu simplement mon dictionnaire de latin, ça signifie « considérer quelque chose comme devant se réaliser ».« Sperare », ça vient de « spes », l'attente. Et le verbe s'est introduit dans la langue française avec le sens du latin. Et il a d'abord signifié « attendre ». Le dérivé « espérance » vient après, à partir du XIIe siècle, et ce lien quasi synonymique qu'entretiennent les verbes « espérer » et « attendre » se voit encore aujourd'hui très facilement dans les pays latins, là où le français parlera de « salle d'attente », l'espagnol, comme je sais que nombre d'entre vous le savent d'ailleurs, l'espagnol parlera de « Sala de Espera, la salle d'espérance. Pensez-y, la prochaine fois que vous irez à un rendez-vous chez le médecin, vous n'attendrez pas dans la salle d'attente, vous serez dans la salle d'espérance. Ça ouvre des horizons. Tout à fait nouveau. Eh bien, c'est ce même chevauchement entre attente et espérance que la langue de nos auteurs, le grec, entretient. C'est-à-dire que le nom « elpis » en grec, hein, « espérance », et le verbe « elpizo », « espérer », véhiculent tous deux l'idée d'une attente. Et cette idée d'attente l'emportera parfois, souvent même, au point de focaliser l'attention sur l'objet de cette attente. Or, ni le grec ni le latin après lui ne se contentent d'une espérance comme objet d'une attente. L'espérance, ça dit aussi, et ça dit d'abord, une attitude existentielle. Dire « j'espère », c'est pas dire ce que j'espère, mais c'est dire de quoi mon existence est constituée au moment où je le dis. Dans le Nouveau Testament, il est question d'espérance à 52 reprises. Et on est aussitôt frappé par l'inégale répartition du mot parmi nos auteurs, parce que sur les 52 occurrences, 36 sont attribuées à Paul. Alors, si mes calculs sont bons, ça signifie que 70% de l'espérance néo-testamentaire est paulinienne. Paul, c'est le grand théologien de l'espérance. Et cela, je vous le disais en introduction, dès la première épître aux Thessaloniciens et même dès ses premiers versets que nous disons maintenant. Premier mot de ce qui va devenir plus tard la littérature chrétienne. Paul et Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens qui est en Dieu Père et Seigneur Jésus-Christ, à vous grâce et paix. Nous rendons grâce à Dieu toujours au sujet de vous tous, faisant mémoire dans nos prières sans cesse, nous souvenant de votre foi qui œuvre, de votre amour qui travaille et de votre espérance qui persévère. Venant de notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père, sachant, frères aimés de Dieu, votre élection, car notre évangile n'est pas venu à vous en parole seulement, mais aussi en puissance et en esprit saint et en pleine certitude. Comme vous savez, tels nous avons été parmi vous, pour vous. Vous voyez que tout de suite apparaît la triade foi, amour, espérance, verset 3. Alors la traduction ici, j'ai joué au même jeu que mon collègue tout à l'heure, c'est une traduction qui est mienne, donc toute erreur est sous ma responsabilité. C'est une traduction qui sert le grec un petit peu exprès pour sortir de nos habitudes de lecture. Cette traduction, elle vous permet aussi de montrer, elle permet pardon, aussi de montrer que dans les trois expressions, il s'agit de dire, du verset 3 donc, il s'agit de dire l'origine de ceux qui œuvrent, de ceux qui travaillent et de ceux qui persévèrent en eux. La foi qui œuvre en eux, l'amour qui travaille en eux, l'espérance qui persévère en eux ont une seule et même source, le Seigneur Jésus-Christ. Et rappelez à notre souvenir ceux qui œuvrent, ceux qui travaillent, ceux qui persévèrent en nous. Et vous voyez que l'espérance apparaît ici comme une force de conviction. Elle est ce qui s'obstine en moi. Voilà ce que Paul voit à l'œuvre en chacun de ses frères et en chacune de ses sœurs. Il voit la foi, l'amour et l'espérance agir en eux. La précision du verset 3 de notre Seigneur Jésus-Christ indique l'origine de cette œuvre, de ce travail, de cette persévérance. Voilà l'événement qui ouvre à cette vie-là devant Dieu qui est Père et qui Paul. Foi, amour et espérance œuvrent en eux pour le Christ, en vue du Christ et à cause du Christ. Première apparition ici de l'espérance chrétienne et on comprend que l'espérance n'est pas une notion transitive. C'est-à-dire que pour Paul, il n'en va pas et il n'en ira jamais de l'espérance de ceci ou de l'espérance de cela, comme si l'espérance était liée à un but à atteindre. L'espérance est en elle-même une attitude existentielle qui ne vise rien, mais qui structure le présent et l'avenir de la personne. Un présent et un avenir qui, grâce à cette espérance, restent ouverts dans la vie quotidienne, dans la durée. Comme la foi, l'espérance désigne une transformation de l'existence. Je laisse la première aux Thessaloniciens de côté, il pourrait encore dire plein d'autres choses parce que l'espérance va réapparaître dans cette épître aux Thessaloniciens. Donc vous voyez que dès le début, en fait, l'espérance se tient dans la théologie de Paul, même dans ses balbutiements qui sont tout de même assez remarquables. Mais c'est dans l'épître aux Romains que Paul va développer véritablement sa compréhension de l'espérance. C'est là, dans ce texte, qu'elle apparaît le plus. Et d'abord, elle apparaît, ça me permet de faire la transition remarquable avec ce que nous avons entendu tout à l'heure, elle apparaît d'abord en lien avec Abraham. Abraham, je ne vous apprends rien, patriarche par excellence, Abraham raconte à lui seul la relation de confiance à laquelle Dieu appelle les personnes, sans distinction de qualité et d'appartenance. Avec Paul, Abraham devient le père des croyants, de tous les croyants, le père de nous tous, écrit Paul. Et puis il continue. Comme il a été écrit, je t'ai établi père de nombreuses nations, il l'est devant celui en qui il a cru. Dieu qui fait vivre les morts et appelle ce qui n'existe pas à l'existence. Lui qui, espérant contre toute espérance, eut foi pour devenir père de nombreuses nations, selon ce qui a été dit, ainsi sera ta descendance. Et ne faiblissant pas en foi, il considéra son propre corps nécrosé, étant âgé de 100 ans environ, et la nécrose de la matrice Sarah. Pour la promesse de Dieu, il ne douta pas par manque de foi, mais il fut fortifié par la foi, rendant gloire à Dieu. Et il était entièrement plein de ceci. Ce qu'il promet, il a la puissance de le faire aussi. C'est pourquoi cela lui fut compté pour justice. Or, ce n'est pas écrit pour lui seul que cela lui fut compté, mais aussi pour nous, à qui cela doit être compté, nous qui croyons en celui qui a réveillé d'entre les morts Jésus, notre Seigneur, qui a été livré pour nos fautes et a été réveillé pour notre justice. La foi d'Abraham n'est pas une chose que le patriarche aurait acquise. La foi d'Abraham, ce n'est ni un bien, ni un état, ni une possession. La foi d'Abraham, ce n'est pas un être, vous le voyez au verset 18, c'est un devenir. Et ce devenir, il carbure à l'espérance. Ce devenir, il est nourri à l'espérance. Foi et espérance sont étroitement liés. L'espérance anime la foi. Je cite le théologien Christophe Chalamet, « L'espérance oriente la foi vers ce qui vient. Elle la dynamise vers Dieu qui vient. L'espérance ne laisse pas la foi en place. » Calvin écrivait que la foi est, je le cite, « soutenue et appuyée par elle. » La foi est soutenue et appuyée par l'espérance. Donc Abraham, c'est le père des croyants parce qu'il a cru et que sa foi a été comptée pour justice, mais il est aussi, selon Paul, il est aussi le père de l'espérance, en ce sens que l'espérance est comprise ici comme la fidélité persévérante et obstinée d'Abraham, lui qui espère contre toute espérance. L'espérance, c'est la fidélité tenace d'Abraham à la vérité événementielle qui la fonde, à l'événement de la rencontre avec celui qui lui promet de devenir père de nombreuses nations. L'espérance, c'est la fidélité d'Abraham à sa foi, à l'événement de sa rencontre avec Dieu qui le nomme et qui l'appelle. L'espérance, c'est la fidélité à la confiance au Dieu qui fait vivre les morts et qui appelle ce qui n'existe pas à l'existence. Vous voyez que Paul fait ici d'Abraham la figure même de l'espérance, comprise comme fidélité active, encore une fois, à cette vérité événementielle. L'espérance sur laquelle est fondée la foi, c'est la fidélité obstinée d'Abraham à la confiance qu'il a mise dans cette parole qu'il a reçue un jour. Je parle d'une fidélité obstinée, tenace, à cause de cette expression, cette fameuse expression du verset 18, espérant contre toute espérance. Je voudrais faire deux remarques sur cette expression. D'abord, que l'expression oblige à penser l'espérance dans la réalité du monde. Parce que l'espérance, elle oriente la foi, elle a nécessairement affaire avec le passé, le présent et le futur. Je reprends ce développement du théologien François Bougain. Elle a affaire avec le passé, le présent et le futur parce qu'elle est le fruit de l'action de Dieu dans la réalité du monde. Du coup, nécessairement, elle se rapporte au passé parce qu'elle a été initiée par la promesse reçue et qu'elle naît d'une vérité déjà manifestée et reçue. D'accord ? L'espérance naît d'un événement déjà passé. L'espérance se rapporte aussi nécessairement au présent parce qu'elle ouvre le chemin sur lequel il faut maintenant avancer. Marchons, entendions-nous tout à l'heure. Et en ce sens, l'espérance, c'est une puissance de fidélité et de responsabilité dans le présent. Et puis l'espérance, elle se rapporte nécessairement aussi au futur parce qu'elle oriente la confiance vers Dieu. Et voilà pourquoi on peut dire avec le théologien Chalamet que, je le cite, « Dans un monde où l'injustice est criante, où règne la peur et la mort, l'espérance de la foi est toujours une espérance contre toute espérance. » Je le dis encore autrement. L'espérance, ce n'est pas une anticipation de la fin, c'est d'abord une manière d'être et d'agir dans le présent. L'espérance, elle renvoie à la réalité du monde et à la réalité de notre existence. Elle rappelle l'inaccompli et les souffrances de la réalité. Verset 19, je relis, « Abraham considère son corps nécrosé. » Littéralement, c'est ça en grec, « nécrosé ». Il considère son corps nécrosé. Ça veut dire littéralement qu'il se met dans l'esprit, il comprend, il observe, il voit bien, il s'instruit, il réfléchit de son corps nécrosé. Il s'instruit de son corps nécrosé. C'est l'espérance en foi, en confiance, qui le conduit à travers cette réalité de mort vers la vie. L'espérance est pour Abraham un possible, une ouverture persévérante à l'avenir, fondée sur la promesse qu'il a déjà, dans le passé, gracieusement reçue dans la confiance. Ma deuxième remarque sur ce fameux croire contre toute espérance, ou espérer contre toute espérance, au fond, je dirais que c'est ce qui fait de la foi une espérance. C'est ce qui qualifie la foi comme espérance. C'est dire que rien de ce qui vient du monde ne peut servir à fonder cette espérance. L'espérance n'est pas du monde. Elle ne vient pas du monde. Elle ne peut pas venir du monde. Rien du monde ne peut venir déterminer cette espérance, appuyer cette espérance, prouver cette espérance. Le théologien François Bougain, encore une fois, a cette formule qui me parle, et j'espère qu'elle peut vous parler. Il écrit que l'espérance bénéficie par rapport au monde qu'elle traverse d'un statut de radicale extraterritorialité. L'espérance a un statut d'extraterritorialité. Et bien cette radicale extraterritorialité de l'espérance, ça signifie aussi, si je la comprends bien, que rien de ce qui vient du monde ne peut quoi que ce soit contre elle. Puisque l'espérance n'a rien à voir avec le monde, le monde ne peut rien contre l'espérance donnée. Il n'y a aucune évidence extérieure à l'espérance fondée sur la promesse reçue qui ne peut pas l'atteindre, qui ne peut pas la toucher et encore moins la détruire. Selon la compréhension de l'espérance que Paul développe ici à travers la figure d'Abraham, l'espérance apparaît comme la mise en œuvre de la foi dans l'existence. Elle anime la foi dans la réalité telle qu'elle est, aussi contraire à la promesse reçue que cette réalité puisse être. Et Paul insiste, cette espérance est insensée, elle est folle, mais Abraham a été rendu fort. L'espérance, c'est une force de conviction qui nourrit, qui fortifie la foi dans les épreuves de la vie, indépendamment des évidences qui pourraient sembler lui faire obstacle. C'est ce qui fait que pour Paul, l'espérance, n'est pas l'espoir. En grec, il y a un seul mot pour dire espoir ou espérance, elpis. Il n'y a pas de distinction en grec. En français, on a espoir et espérance. Et en réalité, il faudrait plutôt traduire espérer contre tout espoir. Ce serait sans doute la traduction la plus juste. Abraham n'a aucun espoir de devenir le père d'une descendance nombreuse. Il n'y a aucun espoir pour ça. Les probabilités physiques, biologiques, naturelles sont contre lui. Mais il a reçu en don l'espérance, sous forme de confiance, fidèle à la promesse de Dieu. Et c'est la confiance en cette promesse qui fonde son espérance contre tout espoir. L'espoir, ça repose sur une certaine possibilité hypothétique de l'avenir. Pour les amateurs de sport, il y en a. Mais pour les amateurs de sport, donc, vous connaissez les pôles espoir. Hein, les pôles espoir, c'est là où on réunit les personnes sur lesquelles on mise parce qu'on a de bonnes raisons de le faire. Parce qu'on voit bien statistiquement que quand même, quand on fait 2m10, on a plus de chances d'être bon au basket que quand on fait 1m50. Et ça, c'est signe d'espoir. L'espérance, elle... C'est une force qui rend Abraham indépendant de ce qui peut être ou de ce qui ne peut pas être. C'est une force qui libère de la crainte du présent ou de l'avenir. L'espoir, c'est une attente. L'espérance, c'est une attitude existentielle. L'espérance chrétienne repose ici sur la promesse de Dieu d'être fidèle à ce qu'il dit, à ce qu'il fait, à ce qu'il est. Ce n'est pas une fidélité à la raison humaine ou à l'intelligence du monde. C'est une fidélité à ce qui n'est pas du monde. Et tout ce que Paul vient de dire pour Abraham, vous le voyez au verset 24, c'est aussi pour nous. Tout ça, c'est pour nous aussi, écrit Paul. Et il nous ramène ainsi aussitôt à la vérité événementielle universelle qui fonde cette espérance, l'événement qui ne pouvait pas connaître Abraham et qui est l'événement de la croix pour notre justice, c'est le verset 25. Nous plaçons confiance en celui qui a révélé Jésus, c'est-à-dire le même Dieu qu'Abraham, le Dieu qui fait vivre les morts. C'est le même Dieu qui a agi pour Abraham et qui a agi dans l'événement de la croix. L'événement de la croix a confirmé la promesse faite à tous les héritiers d'Abraham dont nous sommes. Cette actualisation paulinienne insiste à nouveau. L'espérance chrétienne, selon Paul, ce n'est pas la représentation d'un résultat à venir, c'est un principe de ténacité qui structure le présent de celles et ceux qui, hier comme aujourd'hui, ont reçu de Dieu ce qui les conduit à lui. Et le monde ne peut rien contre ça.
Seigneur, je viens vers toi, je te cherche, mon Dieu. Ô Seigneur, écoute-moi, je t'espère, mon Dieu. Toi, Seigneur, tu es la vie, moi, je n'étais. Je viens vers toi, je te cherche, mon Dieu. Ô Seigneur, écoute-moi, Écoute-moi, je t'espère, mon Dieu. Toi, Seigneur, tu es l'amour. Moi, je t'ai perdu. Toi, tu es toute tendresse. Moi, je cherche ta main. Ô Seigneur, je viens vers toi. Je viens vers toi, je te cherche, mon Dieu. Ô Seigneur, écoute-moi, écoute-moi, je t'espère, mon Dieu. Toi, Seigneur, tu es lumière. Moi, je ne vois pas, ta parole nous éclaire. Fais, Seigneur, que je vois. Ô Seigneur, je viens vers toi, je te cherche, mon Dieu. Ô Seigneur, écoute-moi, écoute-moi, je t'espère, mon Dieu.
Chers auditeurs, chères auditrices, vous êtes bien sur Radio Alliance Plus, vous écoutez le 103.2. Et vous pouvez aussi nous écouter en DAB+, ou bien aller bien sûr sur notre site pour écouter tous nos podcasts. Nous reprenons notre émission, nous la terminons maintenant. Vous avez pu écouter Céline Romer lors d'une conférence qui a été donnée au centre du Lazaret, à 7, pendant la 5e pastorale nationale, des pasteurs à la retraite, qui s'est tenue du 13 au 16 mai dernier. Et donc, cette conférence avait pour titre l'espérance en temps de crise. Vous avez pu entendre donc la première partie de cette conférence. À la suite de cela, vous avez pu entendre un chant. Ô Seigneur, je viens vers toi. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous dire à la semaine prochaine pour la suite donc de cette conférence, la suite de notre émission d'aujourd'hui, en fait. Et je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine. Prenez bien soin de vous sous la chaleur. Allez vous aérer et surtout vous plonger dans l'eau. À bientôt, chers amis, chers auditeurs et auditrices.